Et si demain, l'industrie pharmaceutique pouvait créer des médicaments personnalisés? Ou encore, si nous pouvions créer des molécules qui, en emprisonnant le CO2, nous aidaient à maîtriser l'effet de serre? Enfin, si les technologies de cryptage les plus évoluées aujourd'hui étaient mises à mal en quelques minutes? Impossible, croyez-vous? Pas si sûr. Sans doute l'ordinateur quantique changera-t-il notre vie au cours de ce siècle, comme l'a fait l'ordinateur classique au cours du siècle dernier. Tels étaient les dires du comité Nobel en 2012, lors de la remise du prix Nobel de physique à Serge Haroche et David Wineland pour leurs travaux sur les techniques quantiques. La Commission européenne vient d'annoncer un plan pour l'industrie 4.0 et le déblocage de plus d'€1 milliard pour les systèmes quantiques. Cette seconde révolution quantique aura un tel impact sur l'informatique et sur nos vies quotidiennes, que le monde sera transformé de manière majeure. Alors qu'est-ce qu'un ordinateur quantique? Ces changements sont-ils pour demain? Voyons tout cela avec notre invité, M. Bernard Ourgan-Lian. Bernard, bonjour.
Bonjour Virginie.
Tu es le directeur sécurité et le directeur technique de Microsoft France. Tu es également membre du comité exécutif du laboratoire commun entre l'INRIA et Microsoft Research. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est donc une seconde révolution quantique qui s'annonce. Peux-tu nous expliquer plus concrètement ce qu'est un ordinateur quantique et comment ça fonctionne?
Un ordinateur quantique, c'est un objet assez étrange. C'est un ordinateur, mais qui fonctionne très très près du zéro absolu, donc en fait à moins 270 degrés. Donc c'est un ordinateur qui ressemble à une sorte de gros frigo, à l'intérieur duquel on manipule des objets un peu étranges, qui sont des objets subatomiques, des objets quantiques. Donc les propriétés de cet ordinateur un peu particulier sont directement issues des propriétés quantiques des atomes, et en particulier un effet très important qui est la notion de superposition quantique, qui permet d'imaginer de pouvoir réaliser un certain nombre de traitements en parallèle. Et donc c'est à travers la recherche de ce parallélisme que l'on peut espérer créer des ordinateurs qui réalisent des calculs beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapides que des ordinateurs traditionnels. Pour prendre un exemple, on peut imaginer de chercher par exemple, c'est une des applications naturelles des ordinateurs quantiques, de craquer des clés de chiffrement. Donc si on prend une clé qui est déjà substantielle de 2048 bits, il faudrait plus d'1 milliard d'années à un ordinateur traditionnel pour la craquer, alors qu'il faudrait à peu près une centaine de secondes pour en faire autant à un ordinateur quantique.
Cela semble être des projets de recherche colossaux. Où en sommes-nous exactement ?
C'est un sujet sur lequel il faut considérer qu'un ordinateur quantique, c'est très compliqué à concevoir, parce qu'on est effectivement dans ce monde assez bizarre qu'est le monde quantique, au sein duquel il se passe des choses assez étranges, en particulier le fait que plus on cherche à construire un gros ordinateur, donc on mesure la taille d'un ordinateur par ce qu'on appelle le nombre de qubits, donc on ne mesure pas la puissance d'un ordinateur en bits, mais en qubits. Et donc, quand on construit un ordinateur qui a quelques dizaines ou quelques centaines de qubits, le gros problème de ces ordinateurs, c'est qu'ils ont une certaine tendance à interférer avec le monde qui est autour. Donc, le monde qui est autour, c'est tout simplement un peu de lumière, c'est tout simplement une activité autour. Et donc, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'on crée au niveau de la matière un état dit de décohérence qui fait que les résultats que l'on obtient en calculant sont malheureusement faux. Et donc, pour être capable de construire un ordinateur quantique, il faut être capable de faire en sorte qu'on soit capable de détecter et de corriger les erreurs au fur et à mesure qu'on les trouve. Et donc, c'est là où, effectivement, les choses sont extrêmement compliquées.
En préparant notre entretien, tu m'expliquais que Microsoft ne prend pas le même chemin que les autres pour mener à bien ces recherches-là. Où Microsoft Research en est-il exactement ?
L'aventure de Microsoft et de l'informatique quantique ne date pas d'hier. Donc on a commencé notre aventure à la fin des années 90 avec Michael Friedman, qui est un des chercheurs de Microsoft Research, qui a eu la médaille Field, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, et qui a eu une approche extrêmement originale traitement quantique en essayant d'utiliser une particule assez étrange qu'on appelle un fermion, le fermion de Majorana, et qui est une particule dont on avait prédit il y a quelques dizaines d'années d'existence, mais qu'on n'avait pas été capable de mettre en œuvre de manière concrète. Et donc, il se trouve qu'en 2012, on a prouvé l'existence effective de ce fermion dans des expériences, ce qui a permis effectivement d'ouvrir le champ à cette poursuite très novatrice de l'ordinateur quantique en reposant sur ce que Michael Friedman a inventé, qui est en l'occurrence un calcul quantique topologique, c'est-à-dire qu'on se sert de la propriété de l'organisation de ces fermions un peu particuliers pour être capable de créer des ordinateurs quantiques dans lesquels la correction d'erreurs et la détection d'erreurs est extrêmement efficace. Et donc, si on regarde aujourd'hui en comparaison avec toutes les autres méthodes qui ont été poursuivies par différents autres acteurs, on se rend compte que cette technique permet à la fois d'avoir des particules qui, dans la concrétisation de qubits, peuvent durer jusqu'à une minute, ce qui est énorme. La plupart de ces calculs ne durent qu'un dixième de nanoseconde. Donc, en fait, les particules en question sont détruites aussi vite qu'elles sont créées. Et d'autre part, la quantité de travail qu'il faut mettre dans la détection et la correction d'erreurs, c'est à peu près un facteur 10, alors que dans les autres approches, c'est un facteur 1000 à 10 000. Donc cette méthode, qui est effectivement tout à fait révolutionnaire, est beaucoup, beaucoup plus efficace pour réaliser un ordinateur quantique. Et donc aujourd'hui, depuis la découverte effective dans un laboratoire, en l'occurrence de Hollande, du premier fermion de Majorana, on pense raisonnable de pouvoir concevoir un ordinateur d'usage général dans les 10 ans.
Alors, si l'être humain parvient en effet à créer ses ordinateurs, d'ici une dizaine d'années, espérons-le, quelles applications pouvons-nous en attendre ? Après tout, on dit que cela peut révolutionner le monde.
Parmi les applications extrêmement intéressantes qu'on peut imaginer, il y a toutes les applications qui découleraient de la résolution exacte de ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger. Donc parmi les applications qu'on peut imaginer de concevoir, il y a par exemple tout ce qui permettrait de piéger le CO2. Donc, parmi les enjeux aujourd'hui de la capacité à piéger des CO2, il faut créer des catalyseurs qui sont effectivement capables de réaliser ces pièges. Et donc, à travers une résolution exacte de cette équation, on pourrait effectivement piéger le CO2 et donc, bien sûr, lutter contre l'effet de serre. On peut donner d'autres exemples. On peut, par exemple, parler de la création d'engrais. Aujourd'hui, la création d'engrais à base d'azote est une création qui coûte énormément d'énergie puisqu'elle représente à peu près 1 à 2% de la consommation d'énergie dans le monde, ce qui est absolument énorme. Ça veut dire que les engrais ne sont absolument pas accessibles aux pays en voie de développement. Donc, être capable de résoudre cette problématique, ça veut dire être capable de créer des engrais qui ne vaudraient pratiquement plus rien et donc de les rendre disponibles à toute l'humanité. On peut parler de la recherche contre le cancer. Aujourd'hui, une des méthodes les plus fréquemment utilisées pour lutter contre le cancer, c'est la radiothérapie. Donc la radiothérapie aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile parce qu'on a l'obligation d'approximer la quantité de dose en sachant que cette quantité de dose, elle va dépendre d'une quantité absolument invraisemblable de paramètres et notamment des paramètres qui font que l'on arrive à créer une médecine personnalisée, adaptée exactement au type de tumeur, à la personnalité entre guillemets de l'individu, à ses caractéristiques génétiques, etc. Et donc avec un ordinateur quantique, on serait effectivement capable de créer une approche capable de modéliser complètement le calcul de dose et donc d'être beaucoup, beaucoup plus efficace et de ne pas risquer de finalement soit tuer le malade, soit ne rien faire pour la tumeur en question. On peut aussi, pourquoi pas, imaginer d'utiliser l'ordinateur quantique pour faire du machine learning, donc cette capacité que les ordinateurs ont à apprendre. Aujourd'hui, toutes les méthodes de machine learning reposent sur des approximations. On approxime tous les phénomènes qu'on cherche à mesurer. Le gros intérêt de l'utilisation d'un ordinateur quantique, c'est qu'on pourrait se passer de cette approximation et donc avoir des modèles qui seraient des modèles, entre guillemets, calculés complètement et donc parfaits dans leur utilisation. Et donc, on pourrait réaliser ça dans les mêmes temps qu'aujourd'hui, on réalise effectivement une modélisation en machine learning sur des ordinateurs classiques.
Merci Bernard, merci beaucoup, c'était passionnant.
Au revoir Virginie.
À bientôt.
À bientôt.
Si l'ordinateur conventionnel approche lentement de ses limites, l'ordinateur quantique nous promet de s'en affranchir, en nous offrant une puissance de calcul et un temps d'exécution inimaginable jusqu'à présent. La quantique et ses lois, qui nous paraissent si étranges, permettront peut-être à la science de résoudre les problèmes les plus métaphysiques qu'elle se pose aujourd'hui à propos de l'esprit ou de l'univers. Reste bien sûr à programmer cet ordinateur, ce qui sera l'objet de dures années de labeur. Mais espérons-le, un jour, cela nous permettra de répondre à des questions qui sont aujourd'hui du ressort de la philosophie. Allez plus loin avec nous sur les chemins de l'innovation dans cette chaîne.